Pour l'heure, c'est l'heure de partir du côté du Parlement jurassien où les questions orales ont commencé. Émilie Momenthaler, bonjour.
Oui, bonjour, bienvenue ici à l'hôtel du Parlement à Delémont. C'est le député PLR de Boiscourt, Alain Schwingrubert, qui pose la première question orale.
Respectivement, la ministre compétente est-elle prête à ordonner la suspension immédiate des procédures en cours jusqu'à ce que le processus à suivre ait été corrigé et déterminé ?
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à madame la ministre Rosalie Berecis.
Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Je ne vous cacherai pas que je ne partage pas, monsieur le député, votre appréciation sur cette question. Je tiens tout d'abord à rappeler que l'assistance judiciaire permet à une personne qui ne dispose pas des moyens financiers suffisants de bénéficier de services d'un avocat d'office qui sera rémunéré par l'État. Cette assistance judiciaire peut être obtenue pour des procédures administratives, civiles ou pénales. Toutefois, en cas de retour à une meilleure fortune dans les 10 ans suivant l'entrée en force du jugement, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire doit rembourser les prestations d'assistance. Comme vous l'avez mentionné, monsieur le député, depuis 2021, les procédures visant la récupération des montants versés se sont intensifiées au sein de l'administration cantonale, donnant suite à une révision de la législation acceptée par le Parlement en 2020. Cela étant, je tiens à vous rassurer, monsieur le député, les démarches entreprises par la recette et administration de district de Porrentruy s'inscrivent parfaitement dans le cadre défini par les dispositions légales. En effet, ces dernières prévoient que lorsque le bénéficiaire est en mesure de pouvoir rembourser, l'autorité de recouvrement invite celui-ci à s'en acquitter dans un délai de 30 jours ou à présenter un plan de paiement échelonné. Au sein de la recette et administration du district de Porrentruy, ce processus est pleinement respecté. En effet, l'accès aux données fiscales permet de connaître l'état et l'évolution de la situation financière des bénéficiaires de l'assistance judiciaire. De plus, la recette et administration du district de Porrentruy prend en considération les éventuels arrérages d'impôts ou actes de défaut de biens des bénéficiaires et renonce alors, en principe, aux procédures de recouvrement de l'assistance judiciaire. Par conséquent, les procédures menées ne se font pas de manière irréfléchie ou malencontreuse, mais au contraire en toute connaissance de cause. À ce stade, je ne vois donc absolument pas en quoi une telle pratique serait illégale. Je me permets par ailleurs d'insister encore sur l'importance pour les mandataires de renseigner correctement leurs clients en la matière et rappelle que l'assistance judiciaire, faussement appelée dans le passé gratuite, ne l'a jamais été. Pour toutes ces raisons, le département ne demandera pas à la recette et administration district Porrentruy de suspendre les procédures menées. Je vous remercie de votre attention.
Merci, madame la ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Alain Schwingrubert n'est pas satisfait. Pour la deuxième question orale, je passe la parole à monsieur le député Philippe Rotet.
Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs. Ne dit-on pas que la loi est la même pour toutes et tous ? Ça ne semble pas être le cas pour certains médecins qui refusent de transmettre au registre intercantonal des tumeurs leurs patients qui ont été diagnostiqués comme porteurs d'un cancer. Et pourtant, la loi les y oblige. Le gouvernement peut-il nous assurer qu'une remise à l'ordre sera faite auprès de ces médecins récalcitrants ?
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Jacques Guerbert.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, monsieur le député, vous faites référence à un article dans le quotidien jurassien où deux médecins de la place s'expriment notamment sur les coûts administratifs en lien avec leur travail quotidien et prennent en exemple justement le registre des tumeurs. Aucune information de ce dernier n'est parvenu au service de la santé, confirmant les faits mentionnés. Au demeurant, un de ces deux médecins qui s'expriment livre la totalité des données. Le second est dans quelques mois à la retraite. Je n'ai aucune information à ce stade sur une non-transmission, mais évidemment que le cadre légal doit être respecté. C'est extrêmement important de livrer ces données en lien avec notamment le cancer, sachant que c'est important pour toute la médecine prédictive et le suivi général des évolutions des différents cancers pour ensuite prendre des mesures, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau sanitaire. Donc évidemment, si des comportements illégaux devaient apparaître et être confirmés, le service de la santé, à travers le médecin cantonal, prendrai toutes les mesures nécessaires pour régler cette situation.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ?
Partiellement satisfait.
Monsieur le député, Philippe Rotet est partiellement satisfait. Pour la troisième question orale, je passe la parole à Monsieur le député Lionel Maître.
Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, le 21 mars dernier, il est annoncé dans la presse régionale que la commune de Fontenay avait mis fin de manière unilatérale au processus de fusion avec la municipalité de Port-en-Truy. À ma connaissance, il ne restait que quelques séances de travail entre les deux communes et le mandataire pour terminer la deuxième phase de l'étude, qui aurait permis d'établir un rapport détaillé sur les avantages et désavantages de cette démarche de fusion. Cet épilogue soulève des questions quant à l'utilisation des deniers publics investis pour mandater un bureau conseil chargé d'accompagner ces deux communes, mais également dans la campagne de marketing de l'été dernier qu'on a vue dans les rues des deux bourgades. Aujourd'hui, une somme de plus de 100 000 francs aurait déjà été dépensée dans ce dossier par les deux communes et la République et Canton du Jura via le fonds d'aide aux fusions. Par conséquent, ma question est la suivante. Le gouvernement est-il en mesure de nous informer du montant alloué à ce stade du processus et a-t-il l'intention de demander le remboursement des subventions déjà investies par la République et Canton du Jura versées à ces deux communes ? Je remercie d'avance le gouvernement pour sa réponse.
Merci, Monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Madame la ministre Rosalie Beressis.
Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Le canton a été informé par courrier de la décision du Conseil communal de Fontenay d'interrompre les discussions et les travaux en vue d'une fusion avec la commune de Port-en-Truy. Même si nous entendons les arguments avancés par les autorités de Fontenay, le département a été surpris par cette décision qui intervient, comme vous l'avez mentionné, Monsieur le député, en cours de projet avant la livraison au comité de fusion du rapport final de l'étape 2. La Constitution et la loi chargent le gouvernement d'encourager les communes à fusionner et de faciliter les projets lorsqu'ils voient le jour. Il ne peut donc que regretter l'abandon de tout projet de fusion. Celui-ci, mené par Port-en-Truy et Fontenay, se voulait innovant, en proposant par exemple une vision pour la nouvelle commune, un processus participatif intéressant et l'étude d'autres formes d'organisation communale. Toutes ces réflexions et analyses ne sont toutefois pas perdues et pourront assurément inspirer d'autres projets de fusion. Notez qu'à ce jour, le comité intercommunal de fusion, qui est l'interlocuteur du gouvernement dans ce dossier, n'a pas encore officialisé l'interruption des travaux. Pour répondre à votre question, l'État a dépensé à ce jour un montant total de 64 000 francs dans ce projet de fusion, conformément au décret sur la fusion de communes qui stipule que les frais de fonctionnement des comités intercommunaux sont financés à parts égales par l'État et les communes intéressées. Le décret ne conditionne pas le soutien de l'État au projet de fusion à un quelconque succès. Il y a quelques années d'ailleurs, le projet non abouti de fusion des communes de Delémont et de Sacouronne n'avait d'ailleurs pas donné lieu à une demande de remboursement du soutien accordé. Le législateur n'a probablement pas souhaité introduire une obligation de succès qui pourrait avoir un effet dissuasif sur le lancement des projets, ce qui irait à l'encontre du mandat que nous confie la Constitution. Il va toutefois de soi que le dossier continuera à être suivi et analysé par la délégation aux affaires communales afin de minimiser les pertes dans ce dossier, qu'elles soient ou non financières. Je vous remercie de votre attention.
Merci, Madame la Ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ?
Satisfait.
Monsieur le député Lionel Maître est satisfait. Pour la quatrième question orale, je passe la parole à Madame la députée Florence Chénia.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers et chers collègues, dans son communiqué de presse du 27 octobre 2022, le gouvernement avisait que les personnes bénéficiaires potentielles seraient informées à mi-novembre par la Caisse de compensation du Jura de leur droit à la réduction de leur prime de caisse maladie. Il y était également fait mention de l'introduction au 1er janvier 2023 de la modification légale relative au cumul des RDU des concubins avec enfants en commun sur la base d'un formulaire à remplir. Si les personnes ont bel et bien été averties par les CAS de leur droit à la réduction de primes, il semble qu'à l'heure actuelle, nombre de décisions d'attribution de subsides n'aient pas été rendues. Les conséquences de ce retard peuvent être lourdes pour des bénéficiaires qui peinent à boucler les fins de mois, d'autant plus avec l'augmentation avérée des primes en 2023. Le gouvernement confirme-t-il ce retard dans le traitement des demandes et si oui, peut-il en indiquer les raisons et nous informer des mesures prises pour y remédier ? Je remercie le gouvernement pour ses réponses.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Madame la ministre Nathalie Bartolo.
Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, comme vous le mentionnez très justement, l'établissement cantonal d'assurance sociale ECAS Jura a du retard dans le traitement de certaines demandes, notamment au niveau de l'attribution des subsides de caisse maladie. Plusieurs éléments expliquent cette situation. Tout d'abord, un changement de logiciel qui a impliqué une importante migration informatique en novembre 2022. Ensuite, et comme vous l'avez aussi mentionné, les modifications légales concernant le cumul des RDU, des concubins, qui ont entraîné, début 23, un changement dans l'attribution des subsides de la malle pour les enfants et les jeunes adultes en formation. Ces derniers ont en effet reçu un questionnaire à remplir qui, par effet ricochet, doit maintenant être traité par l'ECAS Jura, et ceci de manière manuelle. L'ECAS Jura a mis en place un plan d'action afin de traiter en priorité, une, les demandes des enfants et des jeunes adultes en formation, et du personnel supplémentaire a été affecté au traitement de ces demandes. Il faut cependant rappeler que lors des années précédentes, les subsides étaient prolongés automatiquement pour les assurés qui ne changeaient pas d'assureur maladie. Pour celles et ceux qui changeaient de caisse maladie, la mise à jour et l'attribution rétroactive se terminaient en principe à la fin du deuxième trimestre, voire parfois même en juillet. La situation qui prévaut aujourd'hui est donc comparable à celle de l'année passée. Mais je vous l'accorde volontiers, Madame la députée, il serait préférable que ces subsides soient pris en compte dès le 1er janvier et qu'ainsi la facture à payer soit immédiatement moins élevée pour les bénéficiaires. Cependant, les travaux réalisés actuellement devraient être profitables pour le futur, attendu que le logiciel métier utilisé à présent permettra à l'avenir de traiter de manière automatique les changements d'assureur maladie, donc une réactivité plus forte. En conclusion, je peux donc vous assurer, Madame la députée, que ces retards sont pris très au sérieux par la direction de l'ECAS Jura et que tout est entrepris pour que les subsides 2023 soient attribués durant le deuxième trimestre, pour autant toutefois que les personnes soient aussi taxées définitivement sur l'année 2021.
Merci, Madame la ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ?
Satisfaite.
Madame la députée Florence Chénia est satisfaite. Pour la cinquième question orale, je passe la parole à Monsieur le député Rémi Meury.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le 12 mars, le résultat a été très serré en faveur du maintien de l'envoi à l'école secondaire de Moutier des élèves des localités environnantes. Mais au-delà de ce vote consultatif qui risque de ne pas régler le problème, il vaut la peine de s'interroger sur la manière dont le système jurassien a été présenté dans les messages au peuple dans les communes concernées. Pour utiliser un euphémisme, beaucoup d'approximations y apparaissent et donnent l'impression que les systèmes bernois et jurassiens sont à des années-lumière l'un de l'autre, le modèle pratiqué dans le Jura étant naturellement présenté comme moins intéressant. D'où notre question, le service de l'enseignement jurassien a-t-il été consulté, voire associé, à la rédaction du rapport d'août 2022 utilisé pour rédiger les messages envoyés au peuple ?
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Martial Courtais.
Oui, merci, madame la présidente. Effectivement, donc, le service d'enseignement a été approché pour cette question, non pas sous forme de consultation ou d'association, mais uniquement pour répondre à quelques questions pratiques, questions de principe. C'était déjà le 14 février 2022. Les principes demandés étaient les suivants, il y en avait quatre. Le premier principe portait sur l'accueil des élèves de la couronne prévotoise à l'école secondaire de Moutier. La réponse était évidemment qu'il n'y avait aucun problème à cela. Le deuxième concernait l'orientation des élèves quand ils passent du primaire bernois au secondaire jurassien. Et là aussi, lors du transfert, nous nous engageons à reprendre les niveaux et les notes des évaluations des élèves bernois. Donc là non plus, aucun problème. Le troisième principe sera porté à l'orientation entre le secondaire 1, donc le passage de l'école obligatoire au secondaire 2. Là aussi, l'admissibilité des élèves donc dans ces écoles jurassiennes pourra être prise telle qu'elle. Et le dernier principe était simplement la question des règles et aucun écueil, puisque les modalités et les contributions cantonales existent déjà entre les cantons du Nord-Ouest, dans l'accord RSA, pour être technique, qui est ratifié, notamment, bien sûr, par Berne et par le Jura. Donc, le service de l'enseignement s'est limité à fournir des données demandées, apparemment à satisfaction, et nous n'avons pas été autrement associés à ce rapport.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député Rémi Meury ?
Satisfait.
Monsieur le député Rémi Meury est satisfait. Pour la sixième question orale, je passe la parole à madame la députée Géraldine Beuchat.
Madame la Présidente, chères et chers collègues, mesdames et messieurs les ministres, les répliques du séisme bancaire planétaire interpellent à plus d'un titre. Il est encore difficile de connaître tous les impacts de la reprise du Crédit Suisse par l'UBS. Nous risquons un effet domino et des effets sur les rentrées financières dans les comptes cantonaux sont à crainte. Il y aura sans doute aussi, et malheureusement, des conséquences sur l'emploi du secteur tertiaire. Ma question, le gouvernement a-t-il déjà pu évaluer les effets potentiels sur les contributions futures de la BNS et sur les impôts du Crédit Suisse dans le Jura? Je le remercie pour sa réponse.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Madame la ministre Rosalie Beressis.
Merci, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Le rachat de Crédit Suisse par UBS soulève en effet, Madame la députée, de nombreuses questions et permettez que j'utilise toutes les réserves d'usage dans ma réponse, tant la situation est complexe. S'agissant des conséquences sur les contributions futures de la BNS, il s'agit de préciser que la part au bénéfice de la Banque nationale pour 2024 dépendra de l'ensemble du résultat des placements réalisés sur l'année 2023 par cet établissement. Pour rappel, avant d'entrevoir un quelconque versement, le résultat devra être supérieur au solde négatif actuellement de la réserve pour distribution future qui se chiffrait au 31 décembre 2022 à 40 milliards. Les engagements inédits, puisqu'on parle ici de près de 250 milliards pris par la BNS dans le cadre de ce rachat, devraient permettre de soutenir ce résultat par l'encaissement de primes de risque et d'intérêt. À noter que ces prêts bénéficient de différentes couvertures, dont celle de la Confédération se montant à 100 milliards. Ainsi, la solution telle que présentée à ce jour par le Conseil fédéral ne devrait pas, sur la base des éléments dont on dispose, péjorer les résultats de la BNS. Quant à l'impact de ce rachat sur les recettes fiscales jurassiennes, il semble à ce stade limité au niveau des entités personnes morales, étant donné que le siège de Crédit Suisse est à Zurich et que le canton du Jura est au bénéfice d'une répartition intercantonale. À terme, les conséquences devront toutefois être appréciées en fonction de la restructuration qui sera opérée. Vous l'aurez compris, Madame la députée, il réside au final encore beaucoup d'incertitudes sur cette opération d'une ampleur peu commune et on ne peut que souhaiter que ce rachat permette de préserver les emplois et de stabiliser les marchés financiers. Je vous remercie de votre attention.
Merci, Madame la ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Géraldine Beuchat est satisfaite. Pour la septième question orale, je passe la parole à Monsieur le député Yves Gigon.
Madame la présidente, Ajam, où vas-tu ? Été 2016, un audit est réalisé au sein de l'Ajam, faisant suite à plusieurs signalements de dysfonctionnement au niveau de la gestion du personnel et d'une détérioration du climat de travail. Décembre 2017, l'Ajam annonce le départ de son directeur, Francis Charmillot. En août 2018, Pierre-Luigi Fedele est nommé à sa succession. Durant 5 ans, il œuvre à satisfaction au bon fonctionnement de la structure et mène à bien des projets bénéfiques tout en gérant une crise migratoire importante. Malgré ce changement, l'Ajam n'a cessé de perdre ses collaborateurs. Aujourd'hui, Pierre-Luigi Fedele fait part de sa démission et on le sait, d'autres cherchent encore à quitter le navire. Cette association, dont la mission est pourtant d'accueillir, fait surtout parler d'elle pour ses nombreux départs. Il semble y avoir un gros problème dans la gestion des ressources humaines, d'où ma question. Y a-t-il un problème de gouvernance à l'Ajam ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à madame la ministre Nathalie Bartolo.
Oui, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. En premier lieu, je peux rapidement indiquer que l'Ajam de 2016 ou de 2017 ne peut être comparée à l'Ajam de 2023. En effet, les évolutions dans le domaine de l'asile, tout comme les crises mondiales successives, ont profondément impacté l'institution et son développement au cours de ces dernières années. Ainsi, on peut affirmer que comparaison n'est pas raison et qu'il n'y a pas lieu de mettre en parallèle aujourd'hui la situation qui prévalait en 2016 avec celle d'aujourd'hui. Dans le contexte précité, l'institution Ajam a connu de nombreux ajustements au niveau du personnel et de l'organisation de la direction en particulier. Je remercie dans ce sens M. Fedele pour son engagement. L'Ajam dispose aujourd'hui d'une équipe de direction soudée et comptant plusieurs responsables de secteur. La direction peut s'appuyer au quotidien sur de solides compétences qui assurent un pilotage par domaine. Cette même direction est également soutenue par un comité placé sous la présidence de votre collègue ici présente, Suzanne Maître-Schindelholz, et ce comité s'engage sans compter. En ce qui concerne la situation actuelle et le contexte de départ du directeur, je suis tout à fait en mesure de vous rassurer ce matin. En effet, hasard du calendrier, une séance était planifiée de longue date entre l'équipe de direction, la présidence de l'AJAM et mon département pour faire un point sur les différents dossiers en cours, ceci bien avant l'annonce du départ du directeur. J'ai donc eu l'occasion tout récemment de partager une matinée avec la direction au complet et je peux vous assurer que la collaboration au sein de l'AJAM se déroule de manière sereine, cohérente et constructive. De plus, le départ du directeur se fera d'ici la fin de cette année, de manière à ce que la transition puisse être valablement assurée. Il serait faux néanmoins de sous-estimer les défis qui existent au sein de l'institution et plus largement dans le domaine de l'asile. Nous pouvons toutefois compter sur un engagement total de l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices et sur une manière constructive d'appréhender la suite. Je sais également que l'AJAM est considéré comme un employeur attractif et de référence dans le domaine social. Grâce à sa solide réputation, elle n'a en effet pas rencontré de difficultés à recruter, y compris au plus fort de la crise ukrainienne. Nous n'avons d'ailleurs pas connaissance d'autres velléités de départ, donc en conclusion, j'estime que la gouvernance de l'AJAM est parfaitement sous contrôle et qu'il n'y a absolument aucun péril en la demeure concernant la gestion de cette institution.
Merci Madame la Ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Yves Gigon est partiellement satisfait. Pour la 8e question orale, je passe la parole à Monsieur le député Vincent Eichmann.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, deux bonnes nouvelles le mois dernier pour la liaison de Delémont-Bâle. D'une part, le doublement de la voie ferroviaire à Grelingue, enfin, doit-on dire, car elle était déjà inscrite dans le projet Rail 2000. D'autre part, l'annonce des prochaines étapes du réseau des routes nationales qui, dans le volet concernant les agglomérations, inscrit le contournement de Delémont. Les efforts fournis par le comité N18, réunissant des élus fédéraux et cantonaux du nord-ouest de la Suisse, portent leurs fruits. Cette année devrait commencer les travaux de réfection du pont du Rigui à Delémont, situé justement sur cet axe de Delémont-Est-Bâle. Ceux-ci vont à coup sûr générer des conséquences pour les utilisateurs des voies ferroviaires et routières. Aussi, le gouvernement peut-il nous informer sur les prochaines étapes de cette réalisation ? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herré.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, oui, monsieur le député, vous avez raison, les bonnes nouvelles se succèdent dans le secteur entre Bâle et Delémont, avec, comme vous l'avez dit, le doublement de la voie ferroviaire à Grelingue, qui permettra à terme 2025 de rétablir la liaison entre Bâle et l'Arc Lémanique via Delémont-Moutier. Également au niveau routier, donc une étude de corridor qui a été lancée par l'OFRU avec une certaine priorisation qui permettra d'améliorer le trafic entre l'autoroute A16 et l'agglomération bâloise et également qui permettra de, nous l'espérons, sortir du trafic des villes telles que Delémont, Lauffont, etc. Et en parallèle à cela, effectivement, le pont du Rigui qui se situe entre l'autoroute A16 et Soyères, un pont qui est propriété des chemins de fer fédéraux, donc des CFF, qui est utilisé au-dessus par l'Office fédéral des routes, puisque c'est actuellement une route nationale, et qui est également, bien évidemment, un élément principal du trafic entre la région de Courandelin, le Valterbie, Delémont et la région baloise. Et donc, effectivement, le pont qui montre des signes de fatigue, qui doit être remis à neuf, et qui doit également être rehaussé pour permettre le passage des trains à deux étages. Donc un défi majeur au niveau technique et également entre les entités concernées. Une coordination est en place entre les CFF propriétaires, l'OFRU, l'agglomération de Delémont et l'État jurassien pour bien évidemment gérer les travaux de la meilleure des manières et notamment les éventuelles interruptions de trafic. Il y a actuellement plusieurs scénarios qui sont esquissés, une fermeture complète ou une fermeture partielle avec peut-être encore une circulation possible sur une voie. Tout cela est encore, bien évidemment, en réflexion. Et il est évident, je pense que votre question le démontre, qu'une communication devra être faite à chaque fois qu'une étape est annoncée pour que les citoyens, la population concernée sachent à quoi s'attendre et sachent surtout s'il y a des perturbations à attendre au niveau du trafic dans ce secteur.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Vincent Eichmann est satisfait. Pour la 9e question orale, je passe la parole à monsieur le député Pierre-André Comte.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les ministres, nous revenons sur un sujet déjà évoqué ici, à savoir l'illégalité probable pour certains, irrémédiable pour d'autres, de la volonté du Conseil fédéral via la C2IP d'imposer une maturité en 4 ans à tous les cantons. Le sénateur neuchâtelois Philippe Bauer vient d'interroger le Conseil fédéral à ce propos. Selon la Confédération, l'objectif d'une telle mesure est, je cite, « d'en finir avec les disparités helvétiques ». Autrement dit, de faire le contraire de ce que le fédéralisme prévoit en matière de prérogatives cantonales dans le domaine de la formation. En effet, selon la Constitution, l'harmonisation de la durée des études concerne uniquement l'école obligatoire et ne porte pas sur la durée des formations post-obligatoires. À l'occasion de la consultation, des cantons se sont opposés à cette réforme. Aujourd'hui, le gouvernement peut-il nous donner l'assurance qu'il s'opposera avec vigueur à la tentative fédérale d'outrepasser ses pouvoirs et de mettre en péril notre maturité en 3 ans qui donne pleinement satisfaction et met nos élèves en situation de réussir leur parcours universitaire?
Merci, monsieur le député, pour la réponse du gouvernement. Je passe la parole à monsieur le ministre Martial Courtais.
Oui, merci, madame la présidente. Monsieur le député, donc il n'y a pas d'illégalité ici. Par contre, nous sommes d'accord sur cette ligne. Peut-être permettez-moi de commencer par une confirmation de ce que nous avons toujours dit dans ce dossier, c'est que les Jurassiennes et les Jurassiens réussissent très bien dans les hautes écoles de Suisse, dans les universités, dans les EPF, preuve d'une excellente préparation par nos enseignantes et nos enseignants. Confirmation, disais-je, il s'agit d'une étude toute récente de la RTS qui nous donne le taux de 74% de réussite des Jurassiennes et des Jurassiens à l'EPFL, ce qui n'est autre que le meilleur taux de tous les cantons suisses. Donc ça confirme ce propos et ça confirme ce que nous avons toujours dit à nos collègues des autres cantons. Cela justifie donc, et nous sommes d'accord là-dessus, le maintien de cette maturité en 3 ans. Maintenant, pour la suite, vous parlez d'illégalité, peut-être rappeler quand même cette procédure qui est assez longue. Donc, déjà en 2019, en séance plénière de CDIP, le Jura était le seul canton qui, finalement, n'est pas allé dans le sens de cette maturité en 3 ans. Nous avons déjà donné notre désapprobation à ce moment-là. Maintenant, je parle de la séance de la semaine passée pour voir l'évolution. Nous sommes à 5 cantons qui sont clairement opposés. C'est encore peu, mais la tendance est dans le bon sens malgré tout. Mais nous envisageons encore autre chose. Justement, pour la suite de la procédure, donc, pour vous donner quelques éléments, le 22 juin prochain, nous avons la décision finale de la CDIP par rapport à ce projet de règlement. Puis ce projet de règlement, à la suite de cela, sera repris pour faire un projet d'ordonnance par le CEFRI et dans le but, bien sûr, d'obtenir une décision du Conseil fédéral, une décision d'ordonnance. Dans ce sens, si la décision du Conseil fédéral ne nous paraît pas aller dans ce qui est notre ligne, eh bien, nous étudierons sérieusement la possibilité, après toutes ces démarches, quand même démocratiques malgré tout, de possibilité d'un recours, donc, par rapport à cette ordonnance, puisque effectivement une ordonnance du Conseil fédéral est quand même plus fragile qu'une loi. Et ici, on parle bien d'une ordonnance. Voilà la suite de la procédure.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député? Monsieur le député, Pierre-André Comte est satisfait. Pour la 10e question orale, je passe la parole à monsieur le député Philippe Bassin.
Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, pour l'organisation d'une manifestation publique en Ajoie en avril prochain, j'ai appris que lorsqu'une société souhaite obtenir un permis de débit de repas et de boissons, elle doit faire une demande préalable à la commune qui l'adresse avec préavis à la recette de district. Quand le préavis est positif, la recette de district établit le permis moyennant un émolument, ce qui est tout à fait normal. Ce qui l'est moins, c'est que la recette de district oblige le bénéficiaire du permis à se déplacer au bureau de la recette, à Porrentruy, pour payer l'émolument en argent liquide. Nous demandons au gouvernement pourquoi le permis n'est pas envoyé par la poste et pourquoi le paiement ne peut pas se faire selon les moyens usuels et modernes de paiement électronique. Merci pour votre réponse.
Merci, monsieur le député, pour la réponse du gouvernement. Je passe la parole à madame la ministre Rosalie Berecis, pardon.
Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Pour les différentes manifestations qui nécessitent une autorisation, il est vrai, monsieur le député, que celle-ci est délivrée par la recette et administration du district dans lequel elle se déroule. Un formulaire, idoine est disponible sur le site Internet du service des contributions. Selon ce formulaire, les demandes de permis doivent être déposées au minimum 20 jours avant la manifestation. Dans les faits, les demandes sont toutefois souvent déposées au dernier moment. Pour cette raison, il est vrai que la personne qui entend obtenir une autorisation est priée de se rendre au guichet de la recette compétente pour obtenir son permis, moyennant un paiement cash. Une telle procédure permet de garantir la tenue d'une manifestation dans le respect de la loi et d'éviter les impayés pour l'État jurassien. À ma connaissance, il est peu fréquent qu'un déplacement dans une des recettes de district soit problématique pour les intéressés. Chaque société ou association organisatrice dispose, en effet, d'un membre prêt à se dévouer. En outre, comme précité, la recette est compétente et celle du district dans lequel se déroule la manifestation. Les déplacements restent donc limités. Cela étant, si la demande de permis est déposée dans les temps, il est tout à fait possible aux organisateurs de prendre contact avec la recette de district compétente pour obtenir une facture. Ainsi, moyennant le paiement anticipé des émoluments, le permis serait envoyé par la poste aux organisateurs qui n'auraient donc pas à se déplacer. Par ailleurs, je tiens toutefois à vous rassurer, monsieur le député, la manière de délivrer les prestations et d'en faciliter l'accès est une préoccupation constante au sein de l'administration et la situation sera prochainement réévaluée en fonction des outils, notamment informatiques, à disposition. Je vous remercie de votre attention.
Merci, madame la ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Philippe Bassin est satisfait. Pour la 11e question orale, je passe la parole à monsieur le député Alain Beret.
Madame la Présidente, chers et chers collègues, mesdames et messieurs les ministres, le projet de géothermie profonde est un sujet de controverse à Haute-Saône. Les inquiétudes liées à ce projet ont suscité une campagne d'opposition virulente. Certains opposants n'hésitent pas à dépasser les règles démocratiques et à faire pression par tous les moyens sur leurs concitoyens. Un climat délétère s'est installé dans la commune. Menaces, injures, lettres anonymes et j'en passe. La communication de l'État mériterait sans doute d'être améliorée autour de ce projet. Un premier moyen relativement simple serait de faire preuve de transparence en mettant à disposition des élus communaux et cantonaux les présentations et procès-verbaux de la commission de suivi. Qu'en pense le gouvernement ? Entend-il prendre des mesures pour améliorer la communication et tenter d'apaiser quelque peu les tensions dans cette région ? Je remercie d'avance le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herret.
Voilà, monsieur le député, effectivement, votre question relate bien la situation. Peut-être un premier rappel, une commission de suivi et d'information est en place. Commission qui est une plateforme de discussion, d'échange. Une commission donc qu'on abrège en CSI, une CSI qui est là pour échanger, qui est censée réunir toutes les sensibilités, que ce soit promoteurs, opposants, collectivités publiques, citoyens, etc. Et par rapport à la situation telle que vous l'avez décrite, permettez-moi de citer le psychanalyste Jacques Lacan, qui disait ceci et qui est, à mon avis, très judicieux pour le projet de Haute-Saône. Le dialogue paraît en lui-même constituer une renonciation à l'agressivité. Donc par rapport à ceci, je relance un appel à la partie d'opposants qui ne souhaite pas dialoguer, qui ne souhaite pas communiquer, un appel à ce qu'ils rejoignent la table de la CSI pour qu'ils puissent s'informer correctement, puisqu'il y a là des experts hautement qualifiés, y compris un docteur en géologie, qui peut répondre à toutes les inquiétudes avec précision et avec des éléments qui sont toujours de valeur. Mais vous avez raison, monsieur le député, la communication actuellement au niveau de la CSI peut être encore améliorée. Des travaux sont en cours, un site internet va être lancé très rapidement et il réunira bien évidemment tous les documents publics nécessaires à une bonne communication. Également une sorte de partie du site internet qui comprendra des questions et réponses, questions qu'on peut se poser et réponses qui peuvent être apportées, sera également mis en place un tout petit peu plus tard. Mais votre question est, je dirais, très actuelle puisque le site est sur le point d'être mis en route et ceci permettra effectivement de renforcer l'information et la communication et de rendre plus accessibles tous les documents de la CSI.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député, Alain Beret est satisfait. Pour la 12e question orale, je passe la parole à monsieur le député Lionel Montavon.
Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs, chers collègues. En novembre 2022, le Parlement jurassien a voté un crédit supplémentaire de 1 100 000 pour l'association CARA qui met en place le dossier électronique du patient, ce qui porte la dépense aujourd'hui à 1 900 000. 4 mois plus tard, quelques 200 jurassiens l'ont adopté, une petite quarantaine de prestataires de soins de la région en font partie. Est-ce que le gouvernement jurassien prévoit un crédit supplémentaire pour financer une campagne pour que les prestataires et les jurassiens y adhèrent ? J'espère que non. D'où ma question. Que va entreprendre le gouvernement pour que le dossier électronique du patient avance dans le bon sens sans que cela surcharge inutilement les caisses de l'État? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Jacques Gerber.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, monsieur le député, le dossier électronique du patient à travers l'association CARA avance dans le bon sens et le crédit supplémentaire accepté par le Parlement jurassien l'année passée permet justement ces avancements. Par contre, le dossier électronique est mis en place dans un cadre légal fédéral qui est en train d'évoluer, heureusement, et c'est le moment, notamment dû aux diverses interventions de l'association CARA face aux problèmes que nous rencontrons dans la mise en œuvre même de ce dossier électronique. Aujourd'hui, le dossier électronique existe, fonctionne, les bases techniques sont totalement conformes, opérables, également conformes au droit. Aujourd'hui, seuls les hôpitaux ainsi que les nouveaux médecins ont une obligation de livrer automatiquement les données sur le dossier électronique. Pour ce faire, il faut de leur côté qu'ils adaptent leurs différents programmes. Ils ont un délai pour le faire. Ce n'est pas encore fait dans tous les cas, c'est juste. Mais ce que nous essayons de faire, c'est au niveau fédéral d'avoir une obligation générale de l'ensemble des prestataires de soins d'obliger le transfert des données des patients sur leur DEP, leur dossier électronique, et également aux patients une obligation d'avoir un DEP. Mais ça, bien sûr, le canton ne peut pas le faire seul. Il faut une base, un cadre légal fédéral approprié. Ça prendra encore quelques années. Pour l'instant, nous travaillons pour simplifier les choses à une plateforme commune, vu que la seule plateforme actuellement est quasi la Poste en Suisse. Et nous travaillons à ce que nous mutualisions avec l'ensemble des différentes communautés les moyens pour être beaucoup plus efficaces et moins coûteux dans le développement technique du dossier électronique du patient. Donc, effectivement, je vous rejoins, ça ne va pas assez vite. C'est très frustrant parce que c'est un instrument indispensable dans la gestion de notre système de santé, mais ça évolue dans le bon sens.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député?
Satisfait.
Monsieur le député Lionel Montavon est satisfait. Pour la 13e question orale, je passe la parole à monsieur le député Serge Beuret.
Madame la présidente, mesdames, messieurs, dans le journal officiel du 2 février 2023, le service de l'économie et de l'emploi a mis au concours un poste d'inspecteur du travail à un taux de 80 à 100%. À ma connaissance, ce poste est actuellement occupé à 60% et ce depuis plus de 3 ans. L'État doit faire face à des problèmes budgétaires. La société a besoin de postes à temps partiel. Question, pourquoi ce poste n'a-t-il pas été mis au concours à 60%? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Jacques Gerber.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, monsieur le député, justement pour des questions d'économie, le gouvernement jurassien a vécu depuis 3 ans avec un poste qui apparaît avec 100% dans le budget des EPT, occupé à 60% parce que le titulaire actuel est au bénéfice d'une réduction du temps en lien avec le programme de retraite que, dans sa grande sagesse, le Parlement a enfin supprimé, qui générera beaucoup d'économies. Ce que nous avons dû réorganiser depuis 3 ans au sein du service, malheureusement, apporte le constat que les objectifs imposés par la Confédération quant au contrôle ne sont pas remplis. Et c'est pour cette raison que nous sommes obligés de revenir à une situation normal pour être en mesure de répondre aux exigences de la Confédération au niveau des contrôles et ainsi bénéficier des financements de cette dernière, car c'est un poste qui est, dans sa grande majorité, financé par la Confédération. Donc c'est dû spécifiquement au fait que le titulaire a demandé de participer au programme de réduction du temps de travail en lien avec la retraite.
et il partira en retraite à cette fin d'année et sera remplacé, comme son poste apparaît dans le budget, par un poste à 100% que nous publions toujours entre 80 et 100%. C'est la règle au niveau de l'État.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député? Monsieur le député Serge Beret est satisfait. Pour la 14e question orale, je passe la parole à Monsieur le député Didier Spies.
Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames et Messieurs les ministres, plusieurs restaurateurs ont reçu ces derniers jours un courrier de l'établissement cantonal des assurances sociales, ECAS, de Seine-Légier, qui exige la restitution d'un certain montant relatif aux réductions d'horaires de travail, les fameux RHT. Mais que s'est-il passé? Le montant exigé concerne le non-respect d'un délai. Pour rappel, le Conseil fédéral annonçait le 15 mars 2020 la fermeture de tous les établissements de Suisse à cause de la pandémie, et cela à partir du 16 mars 2020. L'établissement cantonal des assurances sociales avait donné un délai jusqu'au 19 mars 2020, donc 3 jours, pour retourner les demandes RHT. Certains restaurateurs ne pouvaient simplement pas respecter ce délai pour différentes raisons. Ma question au gouvernement est la suivante. Est-ce que le gouvernement jurassien pense qu'il est correct de donner un délai de 3 jours pour fournir un tel dossier durant une situation de crise où tout le monde a été surpris? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Jacques Gerber.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, vous faites référence à un courrier des lecteurs. Il est toujours délicat de parler de cas ponctuels et très précis. Par contre, cette problématique est connue depuis les premiers jours, les premières semaines de la crise Covid en lien avec les restaurateurs. La règle des 3 jours pour la demande RHT est la règle en temps normal. Le Conseil fédéral, suite à la pression des cantons, a changé cette règle pour les cas de Covid à la mi-avril et a laissé à peu près 2 semaines aux restaurateurs qui étaient concernés par ce cas de figure pour faire une demande rétroactive au 16 mars. Donc, la totalité de l'histoire, c'est celle-là. C'est que si le restaurateur en question n'avait pas la possibilité de respecter les premiers délais qui étaient dus à une situation et des conditions normales, il avait la possibilité, suite à la décision du Conseil fédéral, de faire une demande rétroactive depuis la mi-avril jusqu'au 30 avril pour être financé depuis le 16 mars. Je ne peux pas vous dire combien de restaurateurs n'ont pas fait cette demande alors que l'information est passée auprès de Gastro-Jura à plusieurs reprises dans nos échanges bilatéraux hebdomadaires que nous avions à l'époque.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député? Monsieur le député Didier Spies est partiellement satisfait. Pour la 15e question orale, je passe la parole à Madame la députée Sonia Burich-Massmann.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, le manque de précipitations en 2023 survient après une année 2022 déjà exceptionnellement aride. Les spécialistes annoncent déjà un sérieux déficit hydrique pour cet été. Le Jura, étant donné sa situation géologique, est plus fortement impacté. Le manque d'eau risque d'être problématique, notamment pour le secteur agricole. Certaines régions ont déjà lancé des appels à la réduction de consommation d'eau. Quelle stratégie de gestion de l'eau le gouvernement pense-t-il mettre en place ? Par avance, merci pour votre réponse.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre David Herret.
Voilà, Madame la députée, peut-être je vais vous parler à l'imparfait, puisque le plan sectoriel des eaux a été publié il y a 18 mois déjà. Un plan qui comprend les stratégies, les actions à mener. Donc, vous demandez qu'est-ce que nous allons faire. Nous avons déjà fait quelque chose. Ce plan, bien évidemment, doit être mis en œuvre maintenant. Et pour ce faire, un groupe de travail va être composé notamment des communes avec l'État pour finalement faciliter la mise en œuvre des actions requises. Concernant la situation actuelle, effectivement, nous vivons un hiver avec un déficit de pluie, en tout cas marqué, pluie et neige. Et ceci inquiète à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est l'eau potable. Donc là, il y a des risques d'avoir des manques d'eau potable. Compétence communale. Donc les communes sont appelées à prendre les mesures relatives à la situation hydrologique ou hydraulique de leur secteur. L'État est bien évidemment toujours là en appui pour les conseils. Deuxième aspect, vous l'avez évoqué, c'est l'agriculture. Là, c'est plus délicat parce que nous n'avons pas d'irrigation véritable dans le Jura. Donc là, c'est au secteur économique concerné à prendre des mesures pour l'avenir en tenant compte des perspectives climatiques, peut-être en adaptant les productions des différents aliments qu'ils sont, ou céréales ou herbages qui sont produits. Le troisième aspect, c'est la production hydroélectrique, parce que qui dit pas d'eau dit moins d'eau dans les rivières, dit moins de production énergétique. Donc là, des actions sont menées au niveau fédéral et cantonal pour diversifier les sources d'approvisionnement énergétique. Je vais vous citer juste quelques sources, solaire, biomasse, géothermie, hydrogène et d'autres, bien évidemment. Et puis le quatrième aspect, c'est le manque d'eau de manière générale pour l'environnement, pour les forêts. Et là également, des actions menées au niveau fédéral, cantonal, pour favoriser la biodiversité en forêt, pour bien évidemment adapter les essences au contexte de demain. Donc voilà un petit peu tout ce qui était fait, est fait et sera encore fait à l'avenir, Madame la députée.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Sonia Burich-Massmann est satisfaite.